L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et nous revoilà, il est 16h passé de 10 minutes sur Radio Territoria et Radio Immo. Nous faisons vivre en direct ces deux journées du MEDEF consacrées donc à la REF. Nous sommes partenaires, comme chaque année, partenaires médias de cet événement que nous faisons vivre ici dans notre studio en recevant de nombreux invités. À mes côtés, Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Comment ça va?
Mais ça va toujours très bien.
Eh bien écoutez, mieux pour moi, ça serait de la gourmandise.
On est en tout cas ravis également de recevoir Rosalie Mann. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais vous êtes la bienvenue. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association No More Plastic Foundation. Et dans le cadre de cette sixième édition de la REF, vous participez à un débat ô combien important, puisqu'il s'agit de parler du pouvoir autour de la puissance des maires. Madame Mann, rapidement, est-ce qu'on peut parler en préambule comme ça des principales missions et objectifs de l'association ?
Oui, bien sûr. Alors, No More Plastic Foundation a pour vocation d'alerter l'opinion publique et les pouvoirs publics sur l'impact de la pollution microplastique, celle qu'on ne parle jamais et qu'on ne voit pas, puisqu'elle est invisible à l'œil nu ou... et puis nanoplastique encore plus, sur l'impact sur la santé humaine, sur l'économie et sur l'environnement.
On produit chaque année combien de tonnes de déchets plastiques ?
Alors aujourd'hui, on est à 460 millions de tonnes de plastique par an et on nous annonce 600 millions de tonnes pour 2030. Et 2030, c'est demain. Donc plus on en fabrique et donc forcément plus on y est exposé. Et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête tout simplement parce que... on ingère, on respire, là pendant qu'on parle, on est en train de respirer des nanoparticules de plastique. On respire à peu près l'équivalent de 24 milliards de nanoparticules de plastique par an. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et tous ces nanoparticules de plastique vont dans notre organisme, y restent, et créent des maladies extrêmement graves, dont le cancer, l'endométriose, les maladies de Crohn, la maladie de Parkinson, etc., etc. Et tout ça est prouvé par la science.
Oui, ça a été mesuré.
J'ai un livre qui va sortir qui s'appelle « No More Plastic, comment le plastique ruine notre santé » qui sort le 18 septembre et qui reprend et qui est basé sur toutes les études faites sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, on a le recul nécessaire de voir l'impact que ça a sur notre santé. Donc, c'est une vraie question de santé publique. Et bien plus que de l'environnement, même si l'environnement est extrêmement touché également. Mais c'est avant tout une question de santé publique. Aujourd'hui, le plastique est en train de nous exterminer, en fait. Tout simplement parce qu'on en utilise beaucoup, beaucoup trop, en fait.
C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, sur le plastique, dont beaucoup de gens méconnaissent d'ailleurs les effets délétères. Quand vous parlez de microparticules, de nanoparticules, etc. C'est vrai que ça ne parle pas aux gens, mais quand on leur donne les situations... notamment de ce que vous citez, comme les problématiques de cardiovasculaires, de respiration, respiratoire et autres.
Les enfants prématurés, par exemple.
Moi-même, quand je suis né, les quatre premières années de mon existence, j'avais une bronchite asthmatiforme qui aurait pu être extrêmement grave. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à m'en sortir, mais on n'est jamais totalement indemne de tout cela. Je pensais au sucre, vous savez, au sucre. Je pensais à l'industrie sucrière, qui est aussi l'un des poisons les plus mortels qui existe au monde. Je trouve ça frappant, d'un point de vue, moi, en tant que journaliste qui observe finalement la vie publique, à quel point les gens ont intégré ce problème qu'en n'étant pas réellement un problème.
Tout à fait, mais à l'inverse
de plus prendre de sucre,
absolument.
Ne pas envisager d'arrêter de prendre du plastique quand il ne faut pas prendre du plastique, etc. C'est, je trouve ça assez frappant. Je pense pas que ce soit de l'inconscience. Je pense qu'il y a quelque chose de très ancré dans la culture qui fait qu'on ne mesure pas l'importance comme vous le mesurez. Vous tentez de le faire savoir aux gens.
Oui, à l'inverse du plastique, c'est que le sucre, vous avez le choix de ne plus en consommer.
Oui.
Le plastique, aujourd'hui, le fait qu'on en produise des volumes aussi importants fait que nous en respirons où que vous alliez, en fait, sur la planète. Donc, aujourd'hui, si on veut déplastifier les océans, et il faut savoir que la santé de nos océans est intrinsèquement liée à notre santé, tout simplement parce qu'elle nous aide à produire la moitié des oxygènes que nous respirons. Et les plastiques qui terminent dans l'océan, 80% des plastiques présents dans l'océan sont des plastiques qui viennent de la Terre. Donc, il faut qu'on cesse de produire autant de plastique. Et surtout du plastique recyclé. Parce que le recyclage du plastique n'est absolument pas une solution, ne l'a jamais été d'ailleurs.
Vous parlez de fausse solution, c'est ce que vous dites.
C'est même pas une question de fausse solution. C'est que
solution du tout.
C'est pas du tout une solution, ça aggrave la situation, tout simplement parce que ça crée plus de microparticules de plastique que quand vous recyclez le plastique de manière mécanique ou chimique. De toute façon, c'est un cocktail chimique de plein de substances chimiques dedans. Et tout ça, nous l'ingérons. Nous l'ingérons soit parce qu'on va utiliser des matériaux faits à base de plastique recyclé. Donc, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, par exemple, vous avez des gourdes faites à base de plastique recyclé. Quand vous allez l'utiliser, eh bien, tout simplement, vous allez ingérer des nanoparticules et des microparticules de plastique. Mais ce n'est pas que ça. C'est plein d'autres...
L'eau minérale.
Alors, l'eau minérale, c'est important. Moi, je suis contre quand on me dit il faudrait... on n'a qu'à arrêter de vendre l'eau minérale. Mais ça, c'est un...
Donc, l'eau minérale dans les boîtes plastiques, c'est dans les bouteilles plastiques, c'est...
Ah, c'est délétère. C'est une abomination totale. Il faudrait arrêter
le vent. Des bouteilles en verre en consigne, c'est ça qui
soit des bouteilles en verre en consigne, sachant qu'aujourd'hui...
Moi, j'ai connu les consignes.
Absolument. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le verre, on est capable de le faire avec des impacts écologiques beaucoup moins importants qu'avant. Et aussi, le faire incassable et beaucoup plus léger. Donc, on n'est pas sur du verre des années 70 ou 80. C'est pas du tout le sujet. C'est juste qu'on a abandonné tout un plan d'industrie pour financer le plastique recyclé, etc. Mais si demain, on comprend vraiment les effets délétères du plastique sur notre santé et sur notre économie, parce que des gens malades, c'est un coût pour la société.
Mmh. Et de plus en plus jeunes, en plus, vous disiez.
Et de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, 79% de plus de cancers sur les moins de 50 ans. Et ça, c'est pas possible. Moi, quand je fais des conférences dans le monde entier, j'ai des jeunes qui ont 20 ans qui viennent me voir et qui ont un cancer. On n'a pas 20 ans avec un cancer. Moi, je refuse de vivre dans une société où on est dans un déni tel que nos enfants tombent malades et que c'est normal, en fait. Mmh. Aujourd'hui, c'est tous les enfants qui naissent prépollués parce qu'on a des nanoparticules de plastique dans les placentas. Donc, et c'est pas que alors les femmes sont beaucoup plus impactées et beaucoup plus vulnérables à la pollution plastique, pas parce que je suis une féministe, mais tout simplement parce que pour des raisons biologiques. Le corps d'une femme donnant la vie, elle crée beaucoup plus d'œstrogènes et va capter, stocker davantage les perturbateurs endocriniens présents dans le plastique. Et surtout au cycle de la vie d'une femme, c'est-à-dire la puberté, la lactation et la grossesse quand elle est enceinte, les menstruations et la ménopause, qui fait 50% de la vie d'une femme. Mais attention, les hommes ne sont absolument pas épargnés. On vient d'apprendre qu'on en trouvait dans les testicules, etc. Donc, c'est un vrai sujet de santé publique. Et aujourd'hui, il est important qu'on comprenne que le plastique était fantastique. Il l'est toujours, d'ailleurs. C'est un matériau fantastique, mais qui est toxique. Et la toxicité, on ne peut pas continuer à introduire le plastique dans autant d'industries et dans d'autant de produits de notre quotidien.
Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté ?
Oui, de plus en plus.
Est-ce que vous avez, dans les multiples orientations que vous prenez dans votre fondation, vous traversez, vous allez dans les conférences, d'ailleurs vous y êtes assez prolixe là-dessus et vous n'hésitez pas à vous déplacer. Et c'est bien ce que vous faites parce que c'est un vrai investissement dans votre vie personnelle d'essayer de convaincre, parce que on voit bien que vous en faites une urgence.
C'est une urgence humaine. Et c'est pas un sujet niche. On me dit souvent, là j'ai rencontré une journaliste qui me dit, mais c'est pas mon sujet, moi je suis sur l'économie. Mais l'économie en fait partie. Une société qui ne prend pas aujourd'hui, si vous voulez, il y a de plus en plus quand j'ai commencé No More Plastic, les études, elles n'étaient pas là pour prouver ce que je disais sur l'impact sur la santé. Aujourd'hui, elles sont là. Elles sont là, elles existent. On en parlera et on en parle de plus en plus. Donc la conscience humaine et des générations à venir, elle va être de plus en plus exigeante vis-à-vis de toute l'industrie. Donc il est important de déplastifier notre industrie, parce que les sociétés qui sont dépendantes du plastique ou du plastique recyclé sont en danger. Je vous le dis, c'est un fait.
Vous savez à quoi ça me fait penser, ce que vous dites ? Ça, c'est une habitude que je prends souvent. C'est d'utiliser, vous avez dit, un système de citations pour illustrer les propos. Je voudrais vous en citer une, si vous voulez bien.
Bien sûr.
Être jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser et secouer les chaînes d'une civilisation périmée. Vous voyez le lien que je fais avec ça. C'est oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre. En somme, c'est se plonger dans l'élémentaire. Thomas Mann.
Super.
Alors, peut-être que c'est de la famille.
Non, pas du tout de ma famille. J'aimerais bien, mais non.
Mais je trouve ça formidable parce que dans ce que vous dites, il y a deux choses que je retiens. Et je trouve ça assez formidable. Et je pense qu'on devrait très largement faire de la place pour vous, pour promouvoir ce genre d'idées. Parce que vous n'avez pas idée à quel point les gens sont anesthésiés par des conneries et des choses qu'on leur insène, vous savez, qu'on leur injecte, etc. Ça aussi, ça a fait l'objet d'un livre de philosophie, j'en ai parlé hier l'après-midi, c'est un livre qui a été écrit en 56 qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » de Gunther Anders, où justement on abrutit les gens pour éviter que cette prise de conscience que vous opérez. Et on voit bien d'ailleurs que toute une industrie que vous gênez dans la façon de promouvoir ces éléments-là, quelque part, les place dans une équation qui est quand même très difficile à résoudre. C'est le choix de la vie, c'est le choix de la vie ou le choix partiellement d'une industrie.
Tout à fait, mais moi je ne suis pas contre l'industrie de la plasturgie, attention.
Ouais. C'est bien sûr, ce n'est pas exactement ce que vous dites, mais vous nous amenez quand même à une prise de conscience très large dans l'utilisation.
Tout à fait, mais en fait c'est à eux de se rendre compte que ce n'est plus possible. Pendant très longtemps, en fait, si vous voulez, pour eux, sky is the limit. C'est-à-dire, on peut consommer ce matériau toxique sans limite.
Et ils le pensent encore, hein, certains.
Oui, bien sûr. Mais en fait, il faut se rendre compte que ça ne va plus. Et comme toute transition, il va falloir changer les choses. Donc, l'industrie de la plasturgie, elle doit prendre aujourd'hui le tournant. Et le tournant, il est possible. Et attention, ne croyons pas que les autres pays n'ont pas compris le sujet. Ils ont tout à fait compris le sujet. Ils sont bien plus en avance que nous. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple, eux, ils sont déjà sur le Seaweed Revolution. Vous imaginez pas les industries qui sont en train de mettre en place à échelle industrielle pour remplacer le plastique à base de fioul et de pétrole par du plastique biosourcé, 100% biosourcé.
Parce que ça existe.
Parce que ça existe. Ça marche.
Mais c'est génial.
Mais oui.
Donc parce que les solutions, vous les avez,
les
Rosalie.
Solutions, elles existent. Mais c'est simplement qu'on est... En fait, si vous voulez, l'être humain a envie d'avoir... Aujourd'hui, ce qui a vraiment choqué les gens concernant la pollution plastique, c'est tout ce qui est déversé sur nos plages, sur nos côtes, etc. Et ils avaient cette envie, cette urgence de dire « Ok, comment je sauve la nature ?» et pensaient que la pollution plastique, c'était juste au moment du déchet. Mais la pollution plastique, c'est pas du tout qu'au moment du déchet. C'est dès sa création. Je vous donne un exemple. Quand vous avez des baskets qui sont faites en semelles en plastique, quand vous allez courir à l'abrasion sur le sol, vous allez créer des nanoparticules qui vont dans le sol, dans l'air, dans l'eau. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Mais c'est beaucoup plus flagrant que ça. Par exemple, quand vous portez un polo fait à base de polyester, de nylon, de polyamide, tout ça, c'est du plastique. Donc, vous allez ingérer des nanoparticules de plastique par les pores de votre peau. Donc, on en est... Il faut juste se rendre compte l'ampleur de ce que ça représente.
Les boîtes qu'on met au frigo. Mais tout.
Mais les boîtes qu'on met au frigo. Le thé, les sachets de thé. Les sachets de thé, il y a des filaments de plastique dedans. Donc quand vous faites un thé qui n'est pas en vrac, eh bien vous buvez des microparticules et des nanoparticules de plastique.
C'est hyper flippant quand on y réfléchit, quand on fait...
Alors,
on pourrait se passer de tout ça, finalement.
On peut se passer de beaucoup de choses. Et encore une fois, aujourd'hui, sur les 460 millions de tonnes qu'on produit par an, 37% concernent uniquement les emballages. Je ne sais pas si vous imaginez, 37%.
Non,
si
vous on a une loi en France qui interdit les emballages plastiques.
Non, alors on a une loi qui interdit les emballages à usage unique. Ah oui. Mais ça ne veut rien dire, l'usage unique. Enfin, arrêtons avec ça. Oui. Et en plus de ça, réutiliser du plastique, c'est pire que tout. Parce qu'un plastique qui est réutilisé, il est encore plus toxique qu'un plastique qui est vierge et neuf. Donc arrêtons avec cette ignominie et cette hérésie.
Vos lunettes, elles sont en plastique,
non? Alors mais absolument, toutes nos lunettes de soleil sont en plastique, et je vais vous dire quelque chose.
Vous savez, mes lunettes sont en plastique, et vous savez que les tableaux de bord de voitures sont aussi en plastique.
Ouais. Absolument, parce mais les lunettes, c'est encore pire, parce que les lunettes de soleil, par exemple, on va évidemment au soleil avec.
Oui.
Normal. Et en fait, a priori, mais après, je connais des gens qui portaient des lunettes dans le noir. Mais disons que, a priori, vous êtes au soleil, et au rayon UV du soleil, vous dégagez des gaz à effet de serre par du méthane. Donc en fait, vous contribuez au changement climatique. Et le corollaire au changement climatique, c'est la question du plastique. Donc quand on me dit, on a un problème de changement climatique, on ne voit pas de résultats, on fait tas d'efforts, etc., etc. Mais c'est normal, on n'a pas pris le vrai sujet. Le vrai sujet, il est la question de notre usage du plastique. Aujourd'hui, les pneus de voiture sont faits en plastique. Donc à chaque abrasion, que ce soit des vélos ou des voitures d'ailleurs, la question ne se pose pas, vous faites de toute façon des microparticules de plastique.
Mais si demain ce plastique, on le fait avec des matériaux biosourcés.
Mais biosourcés ou autres, vous savez qu'avant
que le plastique arrive... Donc on n'est pas condamné à utiliser le fuel et le pétrole pour faire du plastique, en fait, en réalité.
Non, pas du tout. Et en plus de ça, il y a énormément d'innovations qui existent déjà.
Alors, et le braquet, on peut le prendre facilement, le braquet.
Non, mais parlons de choses concrètes, par exemple. C'est pour réduire la solution pour réduire notre usage du plastique, c'est de s'attaquer aux deux industries qui sont aujourd'hui les plus prolifiques concernant cet usage.
Lesquelles ?
C'est le packaging, les emballages.
Oui. C'est clair.
Et le textile. Est-ce que sincèrement, dans le textile, on a besoin de matériaux synthétiques ? Non. La raison pour laquelle aujourd'hui on l'utilise aussi...
C'est le coût. Hein.
C'est le coût.
Mais oui.
Exactement.
Mais
exactement.
Oui.
C'est les marges.
Là, hein. On est bien placé pour le savoir.
Absolument.
C'est
les coûts. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les coûts qui vous paraissent faire des économies, en fait, vous le payez plus tard sur la santé de vos collaborateurs.
Je ne suis pas sûr que les industriels pensent la même chose dans leur historiographie, mais vous avez raison. Je pense qu'il y a un défi face à des industries. Vous savez, en anglais, vous avez des industries qu'on appelait à une époque les stranded assets, des actifs naufragés. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, des actifs qui, comme l'industrie charbonnière, par exemple, qui sont dépassés en termes de modèle énergétique, je pense que vous vous attaquez indirectement aussi à des industries qui n'ont pas fait leur mue. Avec d'autres façons d'appréhender le plastique, avec d'autres matériaux biosourcés. Attends, parce que dans ce que vous dites, il y a quand même quelque chose d'évident pour tous. C'est qu'on peut faire du plastique autrement.
Autrement,
il y a
absolument.
Des solutions qui existent.
Il y a des solutions qui existent. Mais je vais vous dire quelque chose.
Ça, c'est rassurant.
Ça, c'est... Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, si on parle du textile, aujourd'hui, on est capable de faire des maillots de bain à base de laine. 100% laine. Et qui sont waterproof. J'ai utilisé ça cet été et c'est super, c'est hyper agréable à porter, etc. Donc la question, elle n'est pas là du tout. Les solutions, elles existent, elles sont là. C'est juste les industriels ne mesurent pas le danger de ce matériau. Parce qu'il ne faut pas croire que les entrepreneurs, ce sont des mauvaises personnes. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, la plupart du temps, ils veulent... Pourquoi ils font autant d'emballages ? C'est pour le respect de leurs clients. Mais... Quand on a besoin de se rendre compte de l'impact qu'a cet emballage sur la santé des générations à venir et la vôtre, tout entrepreneur va prendre la mesure qu'il faut. C'est évident. Moi, je conseille beaucoup de chefs d'entreprise et je vous donne un exemple. J'avais un chef d'entreprise qui me demandait « Bon, on commence par quoi ?» Alors, je sais, tu vas me coûter beaucoup d'argent, mais je veux participer à ça. Alors, on a commencé à réfléchir, à regarder et je lui ai posé la question suivante. C'est « Est-ce que vous avez déjà évalué à combien votre entreprise est dépendante du plastique ou du plastique recyclé ?» Il m'a dit « Non, je vais demander. » Donc, il est allé voir ses équipes, etc. Il a vu. Et à partir de là, je lui ai posé la question « Combien avez-vous de parts sur l'emballage ?» Parce qu'évidemment, l'emballage, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est 37% de ce qu'on produit. C'est énorme. Et évidemment, il en avait. Comme tout le monde.
Logique.
Et je lui ai demandé « Est-ce que tous les emballages sont vraiment nécessaires ?» Et il est allé voir ses équipes. Et vous savez ce que ses équipes lui ont répondu ? Ils lui ont répondu, mais on a toujours fait comme ça. Personne n'était venu les challenger sur ce sujet. Donc évidemment qu'on peut faire autrement.
Oui, mais
sûr, il faut juste penser d'autres paradigmes. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il est revenu me voir et il m'a dit, Rosalie, c'est formidable parce que depuis que j'ai compris ce qui n'allait pas, j'ai même fait des économies. Parce qu'il a réduit des emballages qu'il n'avait pas besoin d'utiliser. Et il a forcé... Parce que ces emballages-là, elles ne sont pas gratuites pour les entrepreneurs. C'est pas gratuit, c'est pas génial. Le plastique, ça coûte cher. Et le plastique recyclé, c'est encore plus cher.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a quelque chose de très important par rapport au modèle de l'exploitation. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui sont tellement ancrées et avec des décisions, une résistance à des modes de changement différents qui remettent parfois en cause même la façon dont ils travaillent, que le braquet, justement, il est difficile à prendre. Mais justement, c'était le sens de ma question précédente. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, changer réellement de braquet avec une industrie ? Et quid de cette industrie ? Comment vous entretenez des relations avec elle aujourd'hui ?
Avec l'industrie du plastique ?
Ouais.
Moi, je ne suis pas contre eux, comme je vous dis. Donc, de toute façon, le plastique, on va toujours en avoir besoin.
L'idée, c'est pas... dialoguer avec eux ?
Je ne dialogue pas directement avec eux, j'aimerais bien, mais malheureusement pas.
On a fait un colloque, avec le mouvement éthique sur l'industrie plastique.
Mm-hmm.
Et on a eu bien sûr le représentant national de l'industrie plastique qui disait que finalement, qu'on leur faisait un mauvais procès. Et donc, il brandissait l'idée que supprimer le plastique, c'était revenir à l'état du 19e siècle, c'est-à-dire une régression totale dans les modes industriels.
Oui, c'est une façon de nous faire peur, évidemment. Mais c'est totalement faux. Absolument pas. L'idée n'est pas de revenir 100 ans en arrière. Évidemment que le plastique a contribué à un progrès phénoménal. Mais le coût sur notre santé, elle est... et sur l'environnement et la planète et la biodiversité, il est trop important aujourd'hui. Donc, on en a... En fait, le matériau du plastique est un matériau fantastique, mais qui est... Déjà, qui a une durée de vie beaucoup plus longue que vous et moi, parce que c'est une éternité. Hein. Donc, le plastique est éternel.
Oui, on a vu des... Je crois qu'il sera 10 000 ans pour éliminer ou un...
Non. Alors déjà, vous n'éliminez jamais, sachez-le.
Jamais, c'est à quoi ?
Jamais. Ça se dégrade. Ça met 10 000 ans à se dégrader, mais ça ne disparaît jamais. Ça va être juste en nanoparticules.
Donc, tout ce qu'on a fait là...
Tout ce qu'on a fait est quelque part, soit dans l'atmosphère, soit dans l'océan, soit même dans l'espace. Parce que sachez que quand on est allé sur la Lune, la première chose que Armstrong a fait sur la Lune, c'est de poser un drapeau en nylon. Et le nylon, c'est du plastique.
Alors, j'adore.
On apprend des choses formidables.
Voilà. Donc, il y en a absolument partout. Et aujourd'hui, il faut arrêter avec ça.
Il resterait bien une heure de plus. Moi.
Ouais, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Rosalie, tout de même, vous êtes ici à la REF. Alors, évidemment, vous participez à cette conférence. C'est quoi l'intérêt ? Parce que vous disiez que vous avez des difficultés, justement, pour parler avec les industriels. Ici, il y en a des industriels. Alors, pas dans l'univers du plastique à proprement parler, évidemment, mais qui utilisent aussi des emballages et tout ça.
Bien sûr.
Est-ce que vous arrivez ? Est-ce qu'ils sont open pour au moins discuter avec vous ? Et puis, au-delà de ça, même si on a une instabilité politique en ce moment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour agir tout de suite et convertir les politiciens qui nous gouvernent d'agir, tout simplement, et de concert avec les pays autour de nous ? Parce que s'il n'y a que la France qui agit, bon, ce n'est pas le cas, vous avez dit qu'on était très en retard par rapport à d'autres pays, notamment les États-Unis, mais comment est-ce qu'on crée tout ça ?
Alors, ça fait beaucoup de questions.
Et il va falloir être synthétique. Ouais.
Alors, donc, premièrement, j'étais ravie d'être ici à la REF pour plusieurs raisons. C'est parce que pour moi, les entrepreneurs, c'est eux qui font et qui changent le monde. Il faut arrêter d'opposer écologie et économie. Ça doit aller ensemble. C'est ce qui fait la richesse d'un pays et la richesse économique, de toute façon, de tout à chacun, puisqu'on a besoin de travailler pour vivre. Donc la question n'est pas là, et quand vous parlez de « j'ai du mal à interagir », oui, avec les gens de la plasturgie, mais les entrepreneurs, ils sont extrêmement ouverts à ça, comme je le disais très bien. Les entrepreneurs, pour eux, c'est pas impossible, c'est des entrepreneurs, c'est justement impossible, c'est pas un fait. C'est une opinion.
Oui. Donc, pour eux, impossible, ce n'est pas une option.
Donc, c'est ça que j'aime chez les entrepreneurs. C'est par eux qu'on va changer le monde. Et ça, je le sais. Donc, de toute façon, moi, je suis venue pour délivrer un message. C'est qu'aujourd'hui, si une industrie veut perdurer, être durable, et c'est ce que j'espère à toutes les entreprises qui sont présentes ici aujourd'hui au MEDEF, c'est de durer. Et dans durer, vous avez quoi ? Vous avez durabilité. Donc, sustainability. Donc, c'est... Ça se rejoint, en fait. C'est pas antinomique. Au contraire, ça doit aller de pair. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si on veut perdurer et durer dans l'économie, il faut déplastifier notre industrie. Il faut que toutes les industries regardent si leur business model est dépendant du plastique. Parce que s'il est dépendant du plastique, sachez-le, le mouvement, il est en marche. Il faut écouter les signaux faibles. De plus en plus de gens ont conscience que les microparticules de plastique sont dans notre cerveau, dans notre sang, dans notre organisme, et que ça a un impact sur notre santé. Donc les consommateurs, et chaque entrepreneur en a des consommateurs, ils vont devenir de plus en plus exigeants.
Bien sûr.
Donc, les entreprises qui n'auront pas pris le tournant de changer leur paradigme de business model n'existeront plus.
Donc, de la consommation.
Exactement. Et je vais vous donner un exemple très rapide. C'est Netflix. C'est ce que j'ai donné comme référence ce matin. Netflix, ils vendaient des cassettes vidéo, et ça marchait très bien, etc. Ils ont vu le streaming arriver et ils se sont dit « Oh là là, il faut qu'on aille là-dessus parce que sinon, on va mourir ». Tous leurs concurrents ont dit « Mais pas du tout, le streaming, c'est illégal. Personne, d'où les gens vont être devant leur écran pour regarder des choses, etc. etc. » Et aujourd'hui, ils sont numéro un. Donc, ils ont su prendre le tournant. Et quand je vous parlais de ce que prépare le reste du monde, l'Asie est extrêmement en avance sur nous par rapport à la déplastification de leur industrie. Pareil aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis, vous pensez, ont annoncé il y a à peu près une semaine qu'ils demandaient, dans le traité international contre la pollution plastique, à réduire la production de plastique ? Vous pensez pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà prêts.
Bien sûr.
Les États-Unis, ils ne sont pas fous.
Ils veulent conquérir le marché.
Ils veulent conquérir le marché.
Évidemment.
Ils sont déjà prêts.
Évidemment.
Et c'est ce qu'ils appellent justement le Seaweed Revolution.
Comment on peut vous aider? Vous êtes financé de quelle façon dans la fondation?
Alors, on est financé par des entrepreneurs, justement, qui ont...
Donc, tous les entrepreneurs peuvent faire des dons à l'association.
Absolument, faire des dons à l'association, par des particuliers également, mais essentiellement par des entrepreneurs.
D'accord. Et ça ouvre droit à des réductions d'impôts.
Évidemment, bien sûr, tout à fait. On est d'intérêt public, heureusement.
D'accord.
Maintenant, il faudrait
Vous êtes reconnu d'intérêt général?
Non, pas d'intérêt général, mais on est d'utilité publique.
D'utilité publique. Alors, il y a un site internet.
Il y a un site internet. www.nomorplastique.co.
Voilà, .co. On va mettre l'URL sur le podcast et vous pourrez directement... Le père. Est-ce que les organisations, les institutions vous financent aussi, les États, le public?
Non, je refuse aujourd'hui que l'État me finance, tout simplement parce qu'ils ont pour objectif de faire du 100% plastique recyclé pour 2040.
D'accord.
Et moi, c'est pas possible.
C'est
antinomique avec le message que je délivre. Aujourd'hui, il faut que les États comprennent que ce n'est pas un objectif, qu'aujourd'hui, la France paye 1,5 milliard à l'Union européenne parce qu'on ne recycle pas assez. On devrait être fiers de ça. On ne recycle pas assez et on va continuer à ne pas recycler.
Ça vous tente pas d'entrer en politique, de devenir député européen? Je pense que vous seriez pas mal, vraiment.
Ah bon, ouais. C'est gentil, mais la politique.
Non,
c'est
mais,
pas...
voilà, mais voilà, voilà. Faites-moi plaisir, ne changez rien.
Voilà. Voilà. Par contre, vous changez vos lunettes qui sont en plastique.
Oui, merci. Vous avez... Il y a des lunettes en bois, vous avez vu les lunettes?
Des lunettes surtout faites...
Je trouve ça génial.
Absolument, et surtout des lunettes faites à base de coquilles d'huîtres.
Ah oui. Ah,
ça donne pas envie comme ça.
Ah, c'est super joli.
D'accord.
Vous devriez regarder.
Okay.
Oui. Notamment les vides de Cancale.
Voilà. Les fameuses. Un grand merci à vous, Rosalie, d'être venue sur ce plateau. Bonne continuation.
Merci
également à vous de votre fidélité. Nous vous en suivre cet événement pendant les deux jours à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci et à très vite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France.